Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, nous sommes en face d'une question qui est celle de la foi, à n'en pas douter, et la demande qui est faite par, on ne sait pas qui, c'est les apôtres, donc ben, c'est par chacun de nous, évidemment, c'est par tout un chacun, car nous sommes tous envoyés par le Christ pour annoncer la bonne nouvelle. La demande semble bien raisonnable, c'est « augmente en nous la foi ». J'imagine que tout le monde parmi nous, à un moment ou à un autre, s'est dit « oui, bon, d'accord, je crois, mais... » J'ai des doutes. Oui, je crois, mais je suis pas toujours sûr. Oui, je crois, mais j'ai l'impression que je suis un peu faible par rapport à ceux qui n'ont pas la foi. Bref, la demande très raisonnable de cet apôtre. Seigneur, on est là, on y croit, hein, mais augmente en nous la foi. Cette demande fort raisonnable va amener une réponse du Seigneur qui semble un peu déceptive, puisqu'il va leur dire... Ben, la foi, si vous en aviez tout petit comme ça, vous pourriez tout faire, quoi, hein, déraciner les arbres, etc. En fait, le Seigneur va les amener à comprendre ce qu'est la nature de cette foi et comment il faut la vivre. Tout d'abord, quelle est la nature de la foi? C'est mon plan, hein, vous avez compris. D'abord, la nature de la foi est un don reçu et la foi est une action. D'abord, un don. Ce don, vous l'avez déjà reçu. Nous l'avons tous reçu. La foi a été infusée dans votre âme au jour du baptême. C'est la question qui, dans l'ancien questionnaire que l'on posait, j'utilise que celui-là parce que franchement, c'est meilleur, on demande « qu'est-ce que vous demandez à l'Église de Dieu ?» Et le baptisé, par la voix de son parrain et de sa marraine, répond « la foi !» Parce que la foi, c'est ce qui va nous permettre de tenir, de vivre. C'est ce qui va nous permettre de ne pas être au ras des pâquerettes dans un monde sans horizon et sans Dieu. Donc c'est essentiel pour la vie d'un homme. Voilà ce que l'on demande. Que demandez-vous? La foi. Vous l'avez reçue. Nous l'avons reçue et cette foi est fortifiée à chaque fois que nous nous approchons des grâces de Dieu qui sont dispensées de multiples manières et principalement d'abord dans l'Eucharistie qui est la source de toute grâce puisque dans ce sacrement vous recevez et la grâce de Dieu et l'auteur de la grâce lui-même réellement présent. Voilà cette conviction profonde qui doit nous habiter, nous avons la foi. Alors je sais, chacun l'a comme il l'a. Je crois que c'est Saint-Pape Jean-Paul II qui avait osé dire qu'il n'avait jamais eu un doute de foi. C'est une grâce. Ben, demandez-le. Demandez cette grâce d'être comme lui, de n'avoir pas de doute de foi. Mais si vous en avez, c'est pas grave, vous pouvez encore construire. La foi est un chemin qui va grandir, parce que si elle est mise dans votre âme au jour du baptême, c'est un peu comme la petite graine qu'on met dans un pot, c'est pas fini. Au contraire, la foi est une vie, il faut l'arroser. Je rencontre parfois des gens qui me disent « oui, oh, j'ai pas la foi ». Ah bon? Mais est-ce que tu pries? Non. Est-ce que tu vas à la messe? Non. Est-ce que tu lis l'évangile? Non. Alors c'est normal que tu n'aies pas la foi. Parce que tu as laissé crever la plante qui est en toi. Hein? Si vous n'arrosez pas, si vous ne mettez pas du terreau, si vous ne mettez pas de la lumière, la plante, elle va mourir. Alors c'est un don que nous avons reçu, la foi. Il nous faut l'entretenir, il faut la cultiver afin qu'elle porte du fruit. Et justement, ce don que nous avons reçu, il faut le porter. Il faut le porter en triomphe sur tous les chemins du monde. Alors c'est un triomphe bien modeste, hein? Parce que le triomphe, l'Église triomphante, c'est pour le ciel, c'est pour la fin du monde. En attendant, nous, on porte notre croix, selon la bonne expression. C'est-à-dire qu'on la porte sur tous les chemins du monde. Hein. Tous nos prédécesseurs ont construit des croix sur tous les chemins de toutes les intersections des campagnes, des villes aussi. Il y a des calvaires parfois, moins souvent en ville, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup, il y a plus d'églises. Et puis, on peut aussi afficher sa foi sur des bâtiments. À Paris, ça existe dans certains quartiers, mais pas trop nombreux. Dans ma Lorraine natale, à Nancy, par exemple, hein, il y a de nombreuses niches dans les maisons où on y met la statue d'un saint. Il y en a ici à Saint-Roch, je sais, pour le territoire de Saint-Roch, la rue Saint-Honoré, j'ai vu. Il y a au moins deux niches déjà. Donc c'est possible, il nous faut montrer notre foi, il nous faut la porter, porter humblement, comme on annonce au monde, une possibilité de se convertir. Porter une croix autour du cou, je sais, c'est difficile. C'est difficile, si vous êtes dans l'administration, on vous dira, c'est pas possible. Bah, trouvez une solution. Je connais un haut fonctionnaire de Bercy, qui dans son, comme il peut pas mettre de croix dans son bureau, eh ben, il a trouvé une solution, il met une crèche. Ah, il met une crèche. Alors, c'est culturel, une crèche, c'est plus... Il met une petite crèche, voilà, qui vient du Mexique ou je sais pas où, voilà. Et il dit, bah, c'est Noël. Et quand on lui dit, bah, c'est plus Noël, là. Oui, mais pour moi, c'est Noël tout le temps. Je suis un gars joyeux, c'est Noël tout le temps. Trouvez des moyens, soyez inventif, soyez malin, quoi. Hein, prudent comme des colombes, mais malin comme des serpents, hein, c'est le Seigneur qui le dit. Il nous faut porter la foi partout. Nous ne pouvons pas la garder comme un... Nous ne sommes pas une secte secrète qui se réunirait le dimanche à 11h et on se reconnaîtrait en disant, bon, ah, nous, on a la foi, d'accord, c'est bon. Hein. Et puis surtout qu'on ne le dise pas aux autres. C'est l'inverse. Le christianisme, depuis toujours, ça a été de porter au monde la foi. Alors, elle se reçoit comme on veut. Les gens reçoivent selon la nature de leur désir, de leur ouverture. Il faut pas se lasser d'annoncer la foi. C'est pas parfois parce qu'on vous reçoit difficilement qu'on ne vous reçoit pas. Hein? Parfois, c'est les pires ennemis de la foi, c'est ceux qui s'en fichent. Alors ceux-là, c'est dur, parce qu'il faut commencer par les intéresser. Hein? Mais parfois, quand on vous dit « Ah, ça je crois pas ça, ça me semble difficile à croire, oh ça c'est bizarre, la Trinité, je comprends rien, et puis est-ce que Dieu était vraiment Dieu, vraiment homme ?» Bon, mais c'est pas grave ça c'est pas grave. Hein? Souvent, je suis invité... Je suis invité souvent, vous pouvez m'inviter d'ailleurs, parce que j'aime bien ma place. Ma place est parmi... J'ai pas besoin, hein, de... c'est une incise. Hein. J'ai tout ce qu'il faut à manger au presbytère, c'est pas le problème. Hein. Mais ma place est parmi vous. Hein. Les yeux de mon épouse, ce sont les vôtres. Hein. Les prêtres ont comme vis-à-vis la mission qui leur est donnée, et ma mission, c'est vous. Alors bref, quand je suis invité, il arrive souvent, je suis surpris, quand je vais dans des familles que je connais bien, bien catholiques, bien à fond, que les enfants, quand ils ont un certain âge, hein, me passent un peu au grill. Ah ben monsieur l'abbé, ça tombe bien que vous veniez parce que ça, moi, j'arrive pas, j'y crois pas, ça c'est bizarre, ça c'est nul. Mais c'est plutôt bon. Hein. C'est que ils se posent des questions. Donc voilà, la contradiction, c'est pas moi qui vais dire le contraire, la contradiction, hein, est source de vérité. Bref, il nous faut toujours et partout entretenir notre foi et la porter. Alors, mon deuxième point sera plus court parce que je me suis un peu enflammé, mais je vais me calmer. La foi est aussi une fidélité et c'est une action charitable. Évidemment, le but de notre foi n'est pas pour nous-mêmes à l'intérieur de ma petite personne. Parce que ma foi me relie à Dieu qui est le créateur du monde et notamment le père de tout homme. Alors, c'est normal, si vous voulez, que la foi se diffracte en charité. Il n'y a pas de séparation entre la foi et la charité. J'ai oublié de vous le dire, mais vous le connaissez, parce que vous connaissez votre catéchisme par cœur. Hein? Les vertus surnaturelles qui touchent Dieu, la foi, l'espérance et la charité. Toutes les autres vertus touchent les autres. Mais celle-là, la foi, l'espérance et la charité, touchent Dieu. Alors c'est évident pour la foi, puisque c'est la foi en l'existence de Dieu. C'est évident pour l'espérance, parce que c'est l'espérance de Dieu, espérance du ciel, ça paraît moins évident pour la charité, et ça l'est. La charité est la vertu qui vous permet de toucher directement Dieu par l'action. En touchant quelqu'un par la charité, quelqu'un qui a besoin de vos conseils, de votre patience, de votre bonté, de votre générosité, de votre écoute, enfin, il y a beaucoup de nécessiteux de toutes sortes dans la vie, en faisant le bien, vous touchez Dieu. C'est immédiat, dit saint Thomas d'Aquin. La charité est une vertu immédiate qui touche Dieu. Alors voilà pourquoi, quand le Seigneur parle de foi à ses apôtres, immédiatement il leur parle de charité. C'est logique, c'est évident, car la foi doit se montrer dans la charité. Hein? Montre-moi ta foi qui ne sauve pas, dit saint Paul. La foi et les œuvres sont inséparables, la mission et les œuvres caritatives sont inséparables. Alors je vous le redis et je vous le répète, parce que je sais bien que dans nos pays, petit à petit, on s'est un peu séparés. C'est-à-dire qu'on en est venu à penser, à cause d'un succès du christianisme, parce que, là aussi, hein, le christianisme a connu un succès tel que nos sociétés sont chrétiennes, dans leur fondement. Peut-être qu'elles le seront de moins en moins. Mais justement, quand on voit que maintenant on va vendre des gens, qu'on va les couper en morceaux, qu'on va les détruire, ça s'appelle une réduction embryonnaire, hein, c'est-à-dire que qu'on crée plein d'embryons pour les implanter dans des utérus artificiels, etc., ou réels, et en attendant les autres, on les réduit, dit-on pudiquement, c'est-à-dire qu'on les tue. Alors effectivement, ça c'est pas notre culture. Notre culture, nous, ça a été de fonder des hôpitaux, des orphelinats, des écoles, pour prendre soin de la vie. Et alors ça a tellement bien marché, qu'aujourd'hui l'État sait ce qu'il fait, grâce à Dieu, et qu'on a oublié que c'est notre rôle premier. Alors c'est bien que l'État le fasse, je m'en réjouis, mais nous ne devons pas oublier aussi d'y mettre la main, car c'est la foi qui doit se diffracter en charité. Dans les pays de mission, hein, et alors du coup, par effet pervers, la foi c'est une espèce de truc où bon là c'est vraiment pour ceux qui sont à fond, hein, qui veulent proclamer la foi avec un drapeau, qui font du catéchisme, etc. Non, non, la foi c'est pour tous et nous devons tous l'annoncer. Dans les pays de mission, hein, Bangladesh évidemment, comme d'habitude, c'est la seule chose que je connais, donc je vous parle de ce que je connais, eh bien, c'est évident que la paroisse est le centre de la charité. On s'occupe des veuves, des orphelins, des handicapés, bref, de tous ceux qui ont besoin. Et en même temps, on annonce la foi, et tous ces gens sont évidemment à la messe. C'est normal. C'est une seule et même chose. Il nous faut retrouver la voie de l'unité, et je finirai sur un petit mot sur l'utilité du serviteur quelconque. Après que le Seigneur ait invité à dire, ben voilà, vous devez servir sans cesse. Hein? Dieu et les autres, c'est-à-dire Dieu dans les autres. Et il finit en disant, vous êtes des serviteurs. Alors avant, on traduisait serviteur inutile. C'est quelconque maintenant, je crois. On traduit par quelconque. Alors c'est plus juste, mais c'est moins bien. Parce que avant, quand on disait serviteur inutile, ça nous choquait. Et on était obligé de réfléchir. Sommes-nous vraiment inutiles? C'est ce que ça veut dire quelconque, hein, en fait. Alors oui et non. Bien sûr, je ne suis pas essentiel au monde, au sens où si je n'existais pas, le monde existerait. Je suis un être contingent, un être relatif. Dieu seul est un être absolu. Oui, mais Dieu a voulu de moi. Et notre utilité, elle se trouve dans la volonté de Dieu. Notre place, personne ne peut nous la prendre. Le bien que vous avez à faire aujourd'hui, l'acte moral que vous allez poser, l'acte de charité de la personne que vous allez rencontrer aujourd'hui, ne pourra être remplacé par personne d'autre. Si les parents se disent « il y a plein de gens qui font du bien, moi je ne vais pas m'occuper de mes enfants pendant une semaine, je ne leur donnerai pas à manger, je ne m'occuperai pas d'eux », eh bien personne d'autre ne le fera. C'est vrai pour tout. Notre place est essentielle parce que Dieu le veut. Un grand homme, mais qui n'était pas tellement ami de l'Église, Clémenceau, avait dit « le cimetière est plein de gens irremplaçables ». Eh bien, il avait tort. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas remplaçables. Le bien que vous avez à faire, personne d'autre ne le fera que vous, car c'est le plan de Dieu. Dieu veut avoir besoin de nous. Telle est notre nécessité. Que nous puissions en vivre réellement tout au long de cette semaine, en demandant à Dieu de nous faire voir le chemin que nous devons prendre et la beauté de notre vocation. Ainsi soit-il.